D'abord, les deux textes liturgiques pour ce dimanche de la Passion. L'épître est tirée de la lettre de saint Paul aux Hébreux. Mes frères, le Christ qui est apparu comme le grand prêtre des biens à venir a passé par un tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'a pas été fait de main d'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Ce n'est pas avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang qu'il est une fois pour toutes entré dans le sanctuaire, après avoir conquis une rédemption éternelle. Car si le sang des boucs et des taureaux, si l'aspersion faite avec la cendre d'une génisse sanctifie ceux qui sont souillés et leur procure la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ qui par l'Esprit Saint s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres de mort afin que nous servions le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que, sa mort étant intervenue pour le rachat des iniquités commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel qui leur a été promis en Jésus-Christ notre Seigneur. On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à la foule des Juifs, « Qui de vous me convaincra de péché ? Si je vous dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. » C'est pour cela que vous n'écoutez point, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent donc et lui dirent, n'avons-nous pas raison de dire que vous êtes un Samaritain et un possédé du démon? Et Jésus répondit, je ne suis pas possédé du démon, mais j'honore mon Père, et vous, vous me déshonorez. Pour moi, je ne cherche pas ma propre gloire, il est quelqu'un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Les Juifs lui dirent, maintenant nous connaissons que vous êtes possédé du démon. Abraham est mort et les prophètes aussi. Et vous dites, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort. Êtes-vous plus grand que notre père Abraham qui est mort et que les prophètes qui sont morts aussi? Qui prétendez-vous être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites qu'il est votre Dieu. Et vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais. Et si je disais que je ne connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je connais mon Père et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie, désirant voir mon jour. Il l'a vu, il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, vous n'avez pas encore 50 ans et vous avez vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ils prirent donc des pierres pour les jeter sur lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Veuillez vous asseoir. Alors attention pour ceux qui viennent à la messe ici en semaine. Cette semaine, je ne serai pas là, donc j'ai ma mission, comme tous les deux mois, dans le nord de la France et à Nantes. Donc vous n'aurez pas de messe toute cette semaine. Messe, bien sûr, dimanche prochain. Autre annonce importante, je l'ai déjà faite, je la répète. Pour la semaine sainte, donc la semaine sainte, c'est la semaine, pas cette semaine, c'est la semaine suivante, donc la semaine après, qui commence avec le dimanche des rameaux. Donc pour le dimanche des rameaux et le lundi saint, les messes auront lieu ici à Ginal. Donc dimanche des rameaux, dimanche prochain, messe normalement à 10h, lundi saint, messe à 10h, mais après je commence la retraite. Et donc pendant toute la retraite sera mêlée avec les cérémonies de la semaine sainte, c'est une retraite un peu spéciale. C'est-à-dire qu'on incorpore j'incorpore les cérémonies principales de la semaine sainte avec la retraite. Donc tout aura lieu à partir du mardi saint jusqu'au jour du Pâques compris. Toutes les cérémonies, les messes, auront lieu au lieu du gîte, c'est à un quart d'heure d'ici, à Recombis, près de l'Edergue, à la frontière entre l'Aveyron et le Tarn. Donc vous avez à la porte de la chapelle, là, sur le petit tabouret, vous avez un papier avec les horaires. Donc, attention, c'est des horaires un peu spéciaux, d'abord pour la semaine sainte, ensuite à cause de la retraite. Donc, mardi saint, mercredi saint, la messe sera à 7h30. Jeudi saint, c'est la grande messe vespérale du soir à 17h30, suivie de l'adoration du Saint-Sacrement à minuit, jusqu'à minuit. Vendredi saint, il y aura le chemin de croix à 16h et la fonction liturgique à 17h30. Et samedi saint, veillée pascale à 22h30, suivie de la messe de minuit. Plus, bien sûr, la messe de Pâques à 10h. Donc, toutes ces messes, sauf encore une fois, le jour des rameaux et lundi saint, au lieu du gîte. Vous pourrez bien sûr être tous invités à venir pour ceux qui veulent venir. Il y aura de la place pour tout le monde. Bon, il n'y aura sans doute pas un prix Dieu pour tout le monde, mais il y aura au moins une chaise. Et la grande pièce est suffisamment grande pour accueillir le monde pour là-bas. Donc c'est à Recombis, près de l'Edergue. Au niveau des retraites, attention, maintenant la retraite de juin est pleine aussi. Donc j'ai deux retraites pleines, celle de la semaine prochaine qui est pleine et celle de juin qui est pleine aussi. J'ai encore une place pour la retraite du mois de mai, une place aussi pour la deuxième retraite d'avril et des places pour la retraite de septembre et d'octobre. Donc je tiens aussi à remercier tous ceux qui nous ont aidés. D'abord, je tiens à remercier tous les bienfaiteurs. Je n'ai pas toujours l'occasion de le faire. Beaucoup de gens me permettent de vivre justement par leurs dons, qui sont parfois des dons anonymes. Donc je voudrais les remercier parce que souvent, je reçois quelque chose sur mon compte et je ne sais même pas qui me l'envoie. Je n'ai pas l'adresse des personnes, pas le numéro de téléphone, je ne peux même pas remercier. Et sachez que tous les jours, je dis mon rosaire pour tous les bienfaiteurs. Donc, qu'ils soient tous remerciés, c'est grâce à vous, grâce à tous ces dons que je reçois régulièrement ou non, qui me permettent tout simplement de faire l'apostolat, par exemple, l'apostolat pour aider des gens qui sont parfois très éloignés, qui sont très isolés, l'apostolat aussi pour, au niveau de la beauté de la chapelle, par exemple, vous avez vu qu'on a maintenant des chaises qui sont un petit peu voyantes pour la chapelle, donc j'ai pu voir ces choses-là, c'est des choses que j'achète grâce à l'argent des bienfaiteurs, donc j'ai pu trouver quelque chose, un lot très intéressant, Emmaüs, j'essaie de faire des économies, mais en même temps d'avoir des belles choses. Donc, merci aussi pour les saintes femmes qui ont fait ce magnifique conopé, ce qu'on appelle le conopé. Conopé, c'est le tissu qui est au-dessus du tabernacle, qui indique la présence réelle, c'est-à-dire qu'il y a deux signes de la présence réelle dans le tabernacle, le conopé sur le tabernacle et la lumière du sanctuaire qui doit brûler. Donc on aura maintenant, on va faire les autres aussi, pour avoir un conopé de chaque couleur liturgique, ce qui est un principe obligatoire. Donc merci à ceux qui l'ont fait, c'est un tissu brocart magnifique qui vient de Grèce. Il n'y a que les orthodoxes qui font des tissus de ce genre. Donc attention aussi pour la semaine sainte, parce que ça me prend régulièrement la question. Donc je considère le pape Pie XII comme le dernier pape légitime. Et donc nous suivons les rubriques du pape Pie XII. C'est absolument évident, n'oubliez pas que le pape est infaillible dans les modifications liturgiques qu'il a fait intervenir pour l'Église universelle. C'est pas la peine de m'écrire ou de m'envoyer des messages. Je parle pour ceux qui m'écoutent sur internet pour me dire qu'il faut absolument que je prenne les réformes d'avant Pie XII. Il n'y en a pas question parce qu'à partir du moment où je reconnais le pape Pie XII comme pape légitime, je suis tenu en conscience sous peine de péché grave de suivre ces réformes. Elles plaisent ou elles ne plaisent pas, ça c'est autre chose. Donc je suis les réformes du pape Pie XII quant aux horaires et quant à des petites modifications liturgiques qu'il a fait intervenir. Qu'il a fait intervenir en 1955. Aussi, d'autres annonces avant que j'oublie. Je mettrai sur la chaîne YouTube les messes également du Jeudi Saint, qui seront en vidéo, donc Jeudi Saint, Vendredi Saint, Vigile de Pâques. Et même sans doute la messe de Pâques elle-même. Plus le vendredi Saint, je mettrai en vidéo le chemin de croix solennel, pour que ceux qui n'ont rien puissent suivre quelque chose à partir de la chaîne. Aussi, une autre petite note, bon, je sais que je vais faire grincer quelques dents en disant ça, mais je crois quand même que je suis un peu obligé de le dire. J'ai reçu beaucoup de messages en ce moment, les gens me posent des tas de questions sur les élections qui arrivent. Bon, alors je vais vous dire ce qui dépend de la foi catholique. Au niveau des opinions, je ne vais pas m'embarquer là-dedans maintenant, parce que ça me sortirait complètement du sujet. Les gens me demandent toujours pour qui il faut voter. Ce n'est pas mon travail. Donc deux choses à noter. Première chose, l'Église n'a jamais, jamais, jamais rendu obligatoire le vote. Il n'y a pas un commandement qui dit « Les jours d'élection, tu voteras dévotement ». Ça, c'est des inventions qui ont commencé avec les évêques autour du 19e siècle. Ça date déjà en France des années 1860-1870. Donc il n'y a pas d'obligation du vote, ça n'existe pas. Donc ceux qui disent qu'on est obligé de voter sur peine de péché mortel, c'est du n'importe quoi. Qui me trouve un seul texte de l'Église qui le dise. Deuxièmement, pour cette élection-là, je vais simplement vous donner des choses qui dépendent directement du catéchisme. Prenons l'exemple de l'avortement, qui est un infanticide. L'avortement est interdit, bien sûr. Dieu a dit « tu ne tueras pas ». Et en plus, c'est un péché qui crie vengeance contre Dieu. Le meurtre de l'innocent. Donc, est-ce un péché mortel de commettre un avortement direct? La réponse est évidemment oui. Est-ce un péché mortel de soutenir directement ou indirectement quelqu'un qui est en faveur de l'avortement? La réponse est oui. Il y a actuellement 12 personnes qui se présentent pour cette élection. Je crois qu'il y en a 12. Y a-t-il une seule de ces personnes qui se présente pour l'élection président de la République en France, donc c'est à la fin de ce mois, une seule personne qui a clairement indiqué qu'elle était contre l'avortement? Il n'y en a aucune. Donc, est-ce un péché? Voilà la question, et je m'excuse d'être un peu net, mais il faut que les choses soient dites. Est-ce un péché grave de voter pour quelqu'un qui est pour l'avortement? Réponse, oui. Je dis, madame Surbet, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est autre chose. Là, on rentre dans le domaine de l'opinion. Je ne veux pas rentrer là-dedans pour le moment. À ma connaissance, je peux me tromper, il n'y avait qu'un seul candidat, et c'est tout à son honneur, qui n'a pas eu les parrainages des 500 voix. C'est Yvan Benedetti. À ma connaissance, c'est le seul qui a eu le courage clairement d'indiquer qu'il était contre l'avortement. À ma connaissance, c'est le seul. Mais comme il ne se présente pas pour... Il n'a pas réussi à avoir les parrainages des 500 signatures, il ne se présente pas. Donc je maintiens ça, même encore une fois, si je fais grincer quelques dents, c'est mon devoir de prêtre de parler. On n'a pas le droit, sous peine de péché mortel, de voter directement pour quelqu'un qui est pour l'avortement. En du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, je voudrais aujourd'hui continuer un petit peu la préparation, vous aider à préparer cette confession de Pâques. Rappelez-vous que nous sommes maintenant dans le temps de la communion pascale, donc qui va du dimanche de la Passion aujourd'hui jusqu'en France et même jusqu'au dimanche de la Sainte Trinité, le premier dimanche après la Pentecôte, avec l'obligation pour tous les catholiques, au moins pendant cette période de temps, de se confesser, de communier. Donc je vais un petit peu vous aider à la préparation de votre confession en reprenant un point qui me semble très important. J'y ai pensé en préparant ce sermon à cause du 25 mars. Le 25 mars, c'était la fête de l'Annonciation, mais c'est aussi l'anniversaire de la mort de Mgr Lefebvre. Donc je dois beaucoup à Mgr Lefebvre, puisque c'est lui qui m'a formé, c'est lui qui m'a donné tous mes ordres, m'a ordonné prêtre en 1979, donc j'ai une vertu piété à l'égard des grands bienfaiteurs, c'est une vertu importante. Et je voudrais un petit peu parler de choses qui nous expliquaient très souvent, j'en ai déjà parlé, mais je voudrais revenir là-dessus. Mgr a beaucoup insisté dans la formation qu'il nous a donnée sur le devoir d'État à l'égard des gens dont nous avons charge, des gens qui ont charge d'âme. Ça veut dire avoir charge d'âme. Il y a des gens qui ont des responsabilités sur les âmes des autres. On a tous la responsabilité sur notre âme propre, évidemment. Mais on a aussi des responsabilités sur les âmes qui nous sont confiées. Alors quand on parle de charge d'âme, les gens disent « Ah oui, ça c'est pour le pape, les évêques et les prêtres ». Ce n'est pas simplement pour le pape. Le pape, effectivement, a charge d'âme pour l'ensemble des catholiques du monde entier. L'évêque pour son diocèse, le curé pour sa paroisse, l'abbé d'un monastère pour ses moines, et le simple prêtre comme moi pour les personnes qui viennent à la messe chez lui, qui soient proches ou éloignés. Donc là, il y a charge d'âme. Mais il n'y a pas que ça. Un père de famille, par exemple, a charge d'âme. Une mère de famille a charge d'âme. Un époux et une épouse ont charge d'âme, même s'ils n'ont pas d'enfant. Pourquoi? Un père de famille, un chef de famille, a charge d'âme, dans le sens que s'il est marié, il a charge d'âme. Il est en partie, je dis bien en partie, responsable du salut de l'âme de son épouse. L'épouse a aussi charge d'âme, même si elle n'a pas d'enfant, parce qu'étant mariée, elle est en partie, je dis bien en partie, responsable du salut de l'âme de son époux. Ce qu'on appelle des charges d'âme. Alors qu'est-ce que ça veut dire être en charge d'âme? Là, les gens ont du mal à comprendre ça. Être en charge d'une âme, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que vous êtes responsable de tous les péchés que vont faire la personne dont vous avez la charge, c'est évident. Oh non, parce que si on était responsable de tous les péchés que font nos enfants ou nos paroissiens, on n'irait pas beaucoup de monde au ciel. Bon, vous êtes responsable de vos péchés, j'ai pas mal de travail avec ça, de nos péchés. Mais charge d'âme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai l'obligation, sous peine de péché grave, de rendre possible pour les personnes dont j'ai la charge, pour l'âme des personnes dont j'ai la charge, qu'ils puissent se maintenir dans le bien, qu'ils puissent, l'expression du pape Léon XIII, qu'ils puissent se mouvoir dans le bien. C'est-à-dire que je dois donner aux gens dont j'ai la charge, au niveau des âmes, je dois les aider à pouvoir vivre dans une atmosphère, dans une famille, dans une société, dans laquelle ils puissent se mouvoir dans le bien. C'est-à-dire que j'ai l'obligation donc d'aider les gens dont j'ai la charge
à vivre, aider, les aider à vivre en état de grâce, rendre possible le fait qu'ils puissent être en état de grâce. Très important de comprendre ça. Parce qu'en face de nous, dans la République française actuellement, c'est clair et net, leur but, c'est de rendre le fait de se mouvoir dans le bien absolument impossible. C'est ce que disaient déjà les francs-maçons du 19e siècle. Arrangez-vous pour que les gens respirent le vice par tous les pores de leur peau. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, faites-les vivre dans une société, dans une famille, avec des corps intermédiaires qui rendent impossible l'état de grâce. Et c'est pratiquement ce qui se passe aujourd'hui. Certes, Dieu peut tout. Mais ça devient pratiquement miraculeux pour des gens qui n'ont pas reçu de formation catholique, qui n'ont pas la protection de la foi catholique. Ça devient pratiquement impossible pour eux de vivre en état de grâce à cause de l'atmosphère générale qui est voulue par le gouvernement pour perdre les âmes. C'est ce que veut la Révolution. N'oubliez pas que la cause finale de la Révolution, c'est la damnation des âmes. Donc si j'ai charge d'âme, je dois tout faire pour permettre aux personnes dont j'ai la charge de vivre habituellement en état de grâce. De rendre les choses possibles. C'est la première conclusion de ce point de catéchisme qui est extrêmement important, dont on ne parle pas assez. Et charge d'âme, avoir charge d'âme. Alors il y a une deuxième règle qu'il ne faut pas oublier pour tous ceux qui ont charge d'âme. Quand vous avez charge d'âme, même si vous avez un enfant par exemple, ou même si vous n'avez qu'une personne dont vous avez la charge, il y a toujours une charge au moins de deux âmes, toujours minimum, dans ces cas-là. Vous avez la charge de votre âme d'abord, puis la charge des âmes qui vous ont été confiées. Et donc, avant de vous occuper du voisin, il faut peut-être s'occuper de soi-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, on a l'obligation pour nous-mêmes d'être en état de grâce. Comment voulez-vous demander à un enfant qui sait très bien que son père vit dans le péché mortel jusqu'au cou, de vivre lui-même en état de grâce? Petit exemple tout bête, tout simple. Imaginez un papa qui vient d'expliquer à son enfant qui a 10 ans, qui vient de mentir un gros mensonge, qui ment habituellement. Donc le papa prend le petit de 10 ans dans son bureau et lui explique, voilà, il ne faut pas mentir parce que Dieu a dit, tu mens pas, tu ne mentiras pas, c'est un péché de mentir. Tu as compris? Oui, papa. Après, ils vont prendre le repas de midi, quelqu'un qui sonne à la porte. Et le papa dit au petit, tu vas ouvrir, et si c'est monsieur machin, tu lui dis que je ne suis pas là. Ça, c'est classique. Comment voulez-vous que le gamin comprenne quelque chose? Il ne peut rien comprendre. Rappelez-vous, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a compris l'importance de la Sainte Messe en voyant la façon dont son père assistait à la messe. En assistant à la façon d'assister à la messe de son propre papa, M. Martin, elle a compris l'importance de la messe. Donc là s'applique une phrase essentielle de Saint Thomas d'Aquin, qui avait un génie pour les synthèses dans les mots, et dans la doctrine, la philosophie et la théologie, « Nemo dat quod non habet ». On ne donne pas ce qu'on n'a pas. Avoir charge d'âme, ça veut dire être réservoir avant d'être canal. C'est Saint Bernard qui disait « Malheur à celui qui est canal sans être réservoir ».« Nemo dat quod non habet », je ne peux pas donner ce que je n'ai pas, donc je remplis mon âme de toutes les grâces dont j'ai besoin, et ensuite je les transmets aux autres dont j'ai la charge. Ça veut dire que, justement, à cause de cette obligation, tout ce que je vous dis, c'est une conséquence directe du quatrième commandement. Il ne faut pas oublier. Quatrième commandement, qu'est-ce qu'il dit? Tes pères et mères honoreront afin de vivre longuement. Oh, mais ça, c'est pour les enfants. Attention. Tes pères et mères honoreront, c'est pour les enfants de voir dans l'autorité de leurs parents, de voir l'autorité du bon Dieu. Et c'est pour les parents de se rendre compte que comme ils ont autorité sur les enfants, ils doivent agir de telle façon que leurs enfants puissent voir toujours le bon Dieu derrière tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent. C'est le principe d'autorité qui est en jeu là. Le principe d'autorité est fondamental, parce que Dieu a l'autorité, et Dieu transmet l'autorité. Le principe d'autorité vient de Dieu. Donc attention à ces choses-là, ne pas oublier tout ça. Alors, rapidement, parce que je ne veux pas vous prêcher pendant des heures, il faudrait des heures pour expliquer tout cela, mais Monseigneur Lefebvre nous expliquait, a beaucoup insisté dans les retraites qu'il nous donnait, surtout les retraites de Semaine Sainte, les retraites de préparation aux ordres. Il insistait énormément sur ces choses parce qu'il savait que c'était capital pour le prêtre, le futur prêtre. Il nous disait, attention, le prêtre, votre premier rôle, ce sera d'apprendre aux gens à penser correctement et à agir correctement pour qu'ils puissent être en état de grâce, se remplir des grâces du bon Dieu pour nourrir les autres. Donc être réservoir avant d'être un canal. Si je suis un canal et que je ne suis pas un réservoir, je ne suis pas connecté au réservoir, qu'est-ce qui se passe? Je vais vite vider mon canal et puis il n'y aura plus rien puisqu'il n'y a pas le réservoir. Donc à cause de ce commandement, il y a l'obligation pour un père de famille par exemple, ou pour un prêtre, de commencer par être maître de son intelligence par exemple, pour apprendre à ses enfants ou à ceux dont il a la charge, eux aussi d'être maître de leur intelligence. Il y a obligation pour quelqu'un qui est en charge d'âme d'apprendre à mortifier sa volonté pour apprendre à ceux dont il a la charge à mortifier leur volonté. Il y a l'obligation pour quelqu'un qui a charge d'âme d'apprendre à utiliser correctement son irascible, c'est-à-dire se mettre en colère pour les choses importantes mais pas pour les choses secondaires, comme notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est mis en colère pour des choses très importantes quand il a vu que les pharisiens ou les publicains vendaient les choses matérielles dans le temple, il a pris un fouet de corde, il a mis tout le monde dehors en cassant tout. Il avait raison. Et donc, il faut apprendre à mortifier, à dominer son irascible. L'irascible, c'est un pouvoir que le bon Dieu nous a donné, c'est un pouvoir de l'âme que tous les hommes ont, même s'ils ne sont pas catholiques, pour apprendre à atteindre le bien ardu, difficile à obtenir. Et enfin, il faut aussi, pour quelqu'un qui a charge d'âme, apprendre à correctement utiliser concupiscible. Désirer les choses qu'on a le droit de désirer et comme on peut les désirer. Mais tout là-dedans intervient le bon Dieu. Et donc, il est très important justement d'avoir, je vous l'ai souvent expliqué ça, il faut que Dieu dirige par la foi, l'espérance et la charité, l'intelligence qui contrôle la volonté, qui contrôle l'irascible, qui contrôle le concupiscible. Alors dans la pratique, il y a trois domaines dans lesquels il faut exercer cette obligation de charge d'âme. Le premier, c'est le domaine de l'enseignement. Se former, donc obligation d'étudier, pour pouvoir former les intelligences des autres. Un père de famille, un prêtre, a l'obligation grave de former l'intelligence de ceux dont il a la charge. Dans la pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est ce qu'on appelle l'obligation du magistère. Là, on touche à la foi, au credo. L'obligation du magistère, l'obligation pour ceux qui ont charge d'âme de connaître, par exemple, leur catéchisme, pour pouvoir enseigner le catéchisme aux enfants. Et ça, c'est l'obligation qu'on appelle de magistère. Magistère, en latin, c'est le professeur. Donc, il y a une obligation grave pour quelqu'un qui a charge d'âme d'étudier pour connaître son devoir d'État. Comment voulez-vous enseigner le catéchisme à vos enfants si vous ne connaissez pas votre propre catéchisme? Donc, obligation d'étudier et obligation d'apprendre à ses enfants à utiliser correctement leur intelligence et conserver leur foi. Donc vous avez l'obligation de vérifier est-ce que les gens dont vous avez la charge connaissent leur catéchisme et aiment leur catéchisme. Voilà, bon courage. C'est la partie la plus dure. Et pour expliquer cette obligation, Mgr Lefebvre utilisait une phrase de Saint Paul. Saint Paul aux Corinthiens qui dit, cette phrase est tellement importante que Mgr Lefebvre a voulu, il avait dit, je veux qu'elle soit gravée sur ma tombe. Excusez-moi, sur la tombe de Monseigneur, c'est gravé sur sa tombe. Il a mis la phrase de saint Paul, tradidi quod et accepi. J'ai transmis ce que j'ai reçu. Donc c'est le rôle de transmission. C'est capital à comprendre ces choses-là. C'est ce qui s'est passé au moment des années 60. Au moment des années 60, les catholiques en France ont arrêté de transmettre. Parce qu'ils sortaient de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait toutes les privations de la Deuxième Guerre mondiale, et on pensait qu'à une seule chose, c'est, je dirais, refaire leur fortune, retrouver des biens matériels, et ils ont complètement mis de côté les choses importantes, à savoir la foi. Et résultat des courses, mais résultat des courses, ça a été Vatican II en 1962-65, et toutes les bêtises d'aujourd'hui, toutes les idées modernistes d'aujourd'hui qui ont été condamnées je ne sais pas combien de fois par les papes avant, et tout ça a été oublié parce qu'ils n'avaient plus la connaissance. Donc, première obligation, l'obligation du magistère, c'est-à-dire obligation de l'enseignement. Deuxième obligation, ministère, c'est la sanctification. Devoir de sanctifier les gens dont j'ai la charge, les âmes dont j'ai la charge. Donc, obligation de me sanctifier moi-même. Hein, c'est quand, des choses qu'on entend régulièrement au confessionnal. C'est des exemples que je donne, mais c'est pour aider. Imaginez un petit garçon qui me pose cette question quand je dis à un enfant, un petit garçon de 9-10 ans au confessionnal, c'est un exemple encore une fois que je donne, mais il faut se confesser bien régulièrement, et que le petit gamin me dise « Et mon papa, pourquoi est-ce qu'on ne confesse jamais ?» Ben, comment voulez-vous répondre à une objection de ce genre? Je ne peux pas lui dire « Votre papa est en train de tuer votre âme. » Et c'est exactement ce que je pense. En plus, je suis lié par le secret de confession avec le petit enfant. Je ne peux rien dire au Père si, par miracle, le Père se confesse. Vous voyez, c'est l'obligation qu'on appelle l'obligation de sanctification. L'obligation de ministère. Le ministère, c'est ça. Magistère, l'enseignement. Ministère, la sanctification. Sanctification, ça veut dire l'obligation, c'est la vertu de charité qui va s'exercer. La vertu de charité, avec la vertu de charité, c'est la deuxième partie du catéchisme, à savoir les commandements, puisque la charité nous est donnée pour pratiquer les commandements du bon Dieu, c'est pour ça qu'on a la vertu de charité. Et donc la charité, les commandements, si vous voulez, pour nous aider à nous sanctifier. Donc sanctifier par la prière et l'usage des sacrements. Ici là, surtout la prière. Donc obligation d'apprendre à nos enfants à prier et de faire aimer la prière à nos enfants. Encore une fois, bon courage. Ça, c'est plus dur. Et pour expliquer cette deuxième partie, Mgr Lefebvre utilisait une autre phrase. Cette fois-ci, il l'a placée sur son blason épiscopal. Il a marqué sur son blason épiscopal « Credidimus caritati ». Nous avons cru en la charité. Phrase de l'épître de Saint Jean, première épître de Saint Jean. « Credidimus caritati », nous avons cru en la charité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous avons cru en la charité. Ça veut dire... Nous avons compris l'importance de la vertu de charité pour pouvoir suivre les commandements. Encore une fois, la charité, c'est de nous aider à suivre les commandements pour nous et pour ceux dont nous avons la charge. Troisième obligation, il y en a trois, obligation de gouvernement. Magistère pour enseigner, ministère pour sanctifier, gouvernement pour diriger. Et là, ici, c'est la dernière partie du catéchisme, c'est-à-dire les sacrements. Donc, il y a eu il y a eu le credo, les commandements à la prière, et là, gouverné aussi par la vertu d'espérance, la vertu d'espérance qui va ici s'appliquer avec la pratique des sacrements. Le devoir de gouvernement, c'est le devoir, c'est tout le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le devoir de gouverner les âmes pour aider les âmes à rester dans le chemin qui les mène au ciel. Et pour expliquer ce troisième point, Mgr Lefebvre utilise une autre phrase, encore de Saint Paul, une phrase qui a été reprise par Saint Pédis, puisque c'était le blason épiscopal de Saint Pédis, du pape Saint Pédis, « Omnia instaurare in Christo », tout restauré dans le Christ. En face de nous, on a en France, c'est clair et net, un gouvernement qui cherche à tout instaurer sous le règne du démon. Nous voulons tout instaurer sous le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. On a en face de nous un gouvernement qui ne cherche qu'une seule chose, tout instaurer sous le régime des droits de l'homme. Nous voulons tout instaurer sous le régime des droits de Dieu. Ce qui nous aide à comprendre qu'il y a entre nous et le monde moderne dans lequel nous sommes obligés de vivre, un fossé impassable. Et c'est ce qu'a expliqué notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, il l'a dit expressément. C'est pour ça qu'il a parlé d'une voie large et d'une voie étroite. La voie étroite, c'est la voie du catholique, d'où le devoir d'essayer justement d'aider au maximum les gens qui sont autour de nous à vivre en état de grâce et à ramener à Dieu. Et me dire, mais monsieur l'abbé, aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte, prêcher ces choses-là aujourd'hui, c'est ridicule, parce que vous êtes en 2022, monsieur l'abbé, vous prêchez comme si nous étions au Moyen-Âge. Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que sa loi a changé? Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, comme au Moyen-Âge, l'obligation pour... ceux qui ont charge d'âme, de sanctifier, de gouverner correctement, de sanctifier et d'enseigner. Il y a la même obligation, elle n'a rien changé. L'obligation n'a pas changé. La seule chose que je vous accorde, c'est qu'il était 10 millions de fois plus facile au Moyen-Âge de sauver son âme. Pourquoi ? Parce qu'au Moyen-Âge, prenez le temps de Saint-Pédis, de Saint-Louis, au temps de Saint-Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, il était beaucoup plus facile de vivre en état de grâce parce que justement la société... qui était unis à l'Église, comme ça doit être, avait compris qu'il fallait aider les citoyens de ce pays, les gens de ce pays, à vivre habituellement en état de grâce. Et donc, ils avaient compris ça, et ils aidaient les gens à se mouvoir dans le bien. C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec la thèse, qui n'est pas de foi, mais qui est soutenue par de nombreux docteurs, qui disent qu'au Moyen-Âge, la plupart des gens se sauvaient. Et je vais bien le croire. Parce qu'il est évidemment qu'au Moyen-Âge, alors qu'on avait un Saint-Louis comme roi de France, c'est beaucoup plus facile de sauver son âme que quand on a un Macron comme président du pays. Pas du tout la même chose. Vous voyez comme c'est important de comprendre ces choses-là. Alors on va me dire, monsieur l'abbé, j'ai bien compris, j'ai plus qu'une seule chose à faire, c'est rentrer à la maison et tirer une balle dans la tête. Comme ça, ce sera la fin du problème. Mais non, c'est pas ça la solution. La solution, elle est où? C'est d'utiliser celui qui est juste là, dans le tabernacle. Jésus, celui qui est juste là dans le tabernacle, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est là avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. C'est ça qu'il faut utiliser. Il faut utiliser justement la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne demande qu'une seule chose, c'est à venir dans votre âme par l'état de grâce, et y rester. Et à ce moment-là, vous avez notre Seigneur Jésus-Christ avec vous. Les gens du monde vont dire que vous êtes fous. Très bien. Laissez-les parler. Laissez les embrer, comme on dit. Laissez les gens parler et faites ce que vous avez à faire. Sanctifiez-vous par la pratique de votre devoir d'État, magistère, ministère, gouvernement. Pour vous et pour vos enfants. Et pour ceux dont vous avez la charge. Et le bon Dieu, à ce moment-là, vous comblera de ses grâces. Je vois tout le temps toutes ces missions que je fais à droite et à gauche dans les exercices Saint-Ignace que le bon Dieu me permet de prêcher. Je vois régulièrement des gens comme ça. Je sais qu'ils ont passé 10, 15, 20, 30 ans sans se confesser. Peut-être qu'ils sont catholiques, mais ils l'ont complètement oublié. Et puis un beau jour, ils débarquent. Et puis, ils font une bonne confession générale, et puis ils changent de vie, et ils demandent le baptême. Là, j'ai encore, pour une des retraites, un jeune homme que je connais, qui vient à la messe parfois de temps en temps chez moi ailleurs, et qui n'est pas baptisé encore. Bon, je travaille déjà sur lui depuis un certain temps, avec la grâce du bon Dieu, ça y est, il vient m'envoyer sa feuille d'inscription pour retraite, et en même temps la feuille d'inscription de sa petite amie. Et très bien. Eh bien, on va s'en occuper. Et pourtant, ils ne connaissent pas grand-chose, pas la foi catholique. Mais ils ont cette volonté, ils cherchent le Dieu. Si vous cherchez Dieu, vous trouverez. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit. Cherchez et vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. En n'oubliant pas qu'à la porte de notre âme, il faut garder quelqu'un. Gardez la Sainte Vierge. Gardez la Très Sainte Vierge Marie. Ça, c'est très, très important. Dévotion envers la Très Sainte Vierge Marie. Parce qu'il y a une chose que le gouvernement déteste, c'est précisément ça. Dévotion envers la Très Sainte Vierge Marie. Pourquoi ? Parce que le rôle de la Très Sainte Vierge Marie, c'est d'amener à son divin fils. Qui aime Marie, aimera son fils. Donc c'est de cette dévotion au chapelet, dévotion à la Très Sainte Vierge Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il nous sera beaucoup plus facile de vivre en état de grâce et d'aider nos enfants à rester en état de grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.